Mon sujet de ce matin, être un ami. Comment être un vrai ami? Pourquoi est-ce que ça a un impact sur nos vies? Et puis, le verset thème, dans le fond, que j'aimerais vous partager ce matin pour ceux qui prennent des notes, là, Proverbe 17, 17. Proverbe 17, 17, qui nous dit, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Juste avant de plonger dans notre texte, pour vous amener toutes les petites les notes que j'ai prises, j'aimerais qu'on puisse prier, mettre ça devant le Seigneur, mettre les âmes des gens qu'on connaît autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur, puisse les mettre devant le Seigneur, que Dieu puisse nous diriger, le Seigneur Jésus puisse nous diriger vers peut-être l'offrande d'amour, vers nos amitiés, nos familles, tout ce qui se passe autour. Puisse nous donner le courage de partager notre foi puis d'être des vrais amis. Donc, prions. Seigneur notre Dieu, juste avant de lire ta parole, Seigneur, de prendre un temps pour t'exalter comme le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, celui qui nous a sauvés et qui nous a cherchés, Seigneur, même quand nous, on était ennemis de la croix, même quand nous, on était rebelles, et qu'on était dans l'incompréhension, Seigneur. Tu nous as appelés, tu nous as rachetés. Tu t'es révélé à nous, Seigneur, puis tu nous as permis d'avoir accès à ta parole. Et au travers de ta parole, au travers des témoignages, souvent au travers des amitiés, Seigneur, on est venu à te donner nos vies. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici avec moi et qui, à l'unisson, peuvent dire, « Tu es mon sauveur. » Et Seigneur, aide-nous à avoir un cœur qui va pouvoir prendre soin, qu'on puisse prendre soin les uns des autres, qu'on puisse prendre soin des gens autour de nous, qu'on puisse être du matériel d'amis efficace, Seigneur, que tu vas pouvoir utiliser pour toucher des vies. Seigneur, ce matin, je te demande de bénir ta parole dans nos cœurs. Je te demande simplement de m'utiliser, de me donner les mots, Seigneur. Tu sais que c'est un sujet qui est sur mon cœur depuis déjà quelques mois et bénis ta parole dans nos cœurs. Utilise-moi, Seigneur, puis gloire à ton nom, Jésus. Amen. Donc, si je vous parle être un ami, il y a probablement plusieurs choses qui vous viennent dans la tête, à la pensée. Et ce matin, j'aimerais vous lire quelques idées. Donc, quand on parle d'un ami, il y a des penseurs, hein? Il y a beaucoup de gens qui se penchent sur des questions puis qui réfléchissent et il y a des phrases qui ressortent. Et puis, quand j'ai cliqué « amitié » dans le dictionnaire, croyez-le ou non, ils m'ont sorti plusieurs phrases célèbres, et puis il y a des hommes qui ont dit plein de choses, et j'aimerais vous en lire quelques-unes. On a Gilbert Keith, qui a vécu dans les années 1800, là, 1875, il disait, « nous faisons nos ennemis, mais c'est Dieu qui fait mon voisin. » Joseph Conrad a dit, « on juge un homme sur ses ennemis aussi bien que sur ses amis. » On a Victor Hugo qui a dit la chose suivante, il dit « Ami, c'est quelquefois un mot vide de sens, mais ennemi, jamais. » On a Jean de La Fontaine, avec sa plume légendaire, qui nous dit « Chacun se dit ami, mais il est fou celui qui s'y repose, car rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. » Et pendant que je préparais ça, ces phrases-là, ils m'ont frappé parce que aujourd'hui, si je dis « Tu veux-tu être mon ami » à la génération qui est juste en dessous de moi, parce que moi, j'ai plus le droit de dire que je suis jeune, mais à la génération juste en dessous de moi, si je dis « Veux-tu être mon ami », ils vont m'aider sur Facebook, ils vont m'aider sur Instagram, ils vont m'aider. C'est toutes des choses que je comprends pas, mais que je les ai parce que ça a l'air que quand tu es pasteur jeunesse, il faut que tu ailles ça. Mais pour vous expliquer la chose, c'est que le mot « ami », il perd son sens. Et puis, l'idée biblique d'un ami est encore plus loin. Parce que l'idée biblique d'un ami, elle a disparu avec la Révolution tranquille. Elle a disparu avec notre idéologie, nos valeurs. Mais là, je dis québécoise, mais ça a l'air que c'est mondial. D'individualiste. Je me moi. Je dois me faire paraître. Et on le réalise peut-être pas, mais la plupart de nos relations, on les a dans un, avec une idée individuelle en arrière. Et puis là, c'est pas pour taper ça à la tête, on est toutes forgées comme ça, on est toutes filées comme ça dans notre tête, dans notre cerveau. Si on a des amis, c'est parce que ben, je suis bien avec eux, ils me font du bien, ils m'amènent quelque chose. Souvent, quand j'ai choisi ma femme, ben, je la trouvais plaisante. Je voulais quelque chose. Hein, c'est bien rare qu'on dise « je vais être la personne ». J'ai choisi cette personne-là parce que ben, on ne fitait pas ensemble, mais on s'est choisi. Hein? La norme, c'est ah, « j'ai quelque chose en commun avec cette personne-là ben, ». On va devenir amis, on aime la même chose. Un petit peu d'intérêt personnel. Mais un premier point que j'aimerais vous partager, puis là, on est dans l'introduction. Aujourd'hui, on va parler de Jonathan et David, mais le mot « ami » dans la Bible en grec, le mot « ami », c'est le mot « philos ». Et pour ceux qui sont habitués à entendre les mots grecs, ça ressemble vraiment beaucoup à un autre mot qu'on utilise souvent, et qui est le mot « philia », qui veut dire « amour ». Et donc, « ami » et « amour », c'est deux mots qui ont une racine commune. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que, eh bien, un ami sans amour, ça n'existe pas. Et que l'amour va souvent transiger vers une amitié avant de devenir quelque chose de plus. Et l'amour, on ne parle pas ici, je ne parle pas de passion, je ne parle pas non plus de sexualité, je parle d'aimer comme Dieu nous aime. Et je vous l'annonce tout de suite, Dieu ne vous aime pas sexuellement. Hein? Puis Dieu, ce n'est pas non plus votre body. Mais il nous aime, et dans la parole de Dieu, à certains endroits qu'on va regarder ensemble, il nous appelle même ses amis. Donc, un ami, ce n'est pas un compagnon. Un compagnon, c'est quelqu'un avec qui je vais accepter d'entrer en équipe pour un certain temps. C'est pas nécessairement que ça va devenir mon ami. C'est pas non plus un collègue de travail. Hein? On a des gens, on est obligé d'être en relation avec eux dans le contexte de notre travail. Des fois, ils disent des choses qui nous dérangent, ils font des choses qui nous tapent sur les nerfs. Je veux dire, on a tous une personne dans notre entourage de travail, à moins qu'on travaille tout seul. On a tout quelqu'un qui nous tape ses nerfs, et encore là, ça peut arriver. Mais l'idée, là, c'est pas juste d'avoir une simple connaissance. Hein? Et l'idée d'un ami a tellement changé. Il y a un humoriste québécois que je ne me souviens plus lequel, mais il dit, la plupart des jeunes aujourd'hui, ça a 2000 amis sur Facebook, mais quand c'est le temps de déménager, il n'y en a plus un. Et on est vraiment rendu dans un fléau aujourd'hui où on n'a aucune idée. La génération a perdu la saveur de c'est quoi un ami. On est en train de combattre un fléau qui mélange avoir des amis puis des followers. Avoir des amis et avoir de la visibilité. Avoir des amis puis avoir un nombre de likes pour être plus visible, pour avoir accès, avoir une accessibilité aux choses d'un peu partout. Combien de gens, des jeunes, sont entourés de gens et pourtant ils se sentent seul. Et combien de jeunes, et moins jeunes, vous êtes tous jeunes de cœur, dans le fond, combien de jeunes et moins jeunes, c'est plus pour les jeunes, vous savez, ils vont se perdre, et là, ils voient pas beaucoup d'amis, et puis là, il y a des gens qui se filment en ligne, puis qui postent ça en ligne, puis qui font ça live, fait que là, ils vont prendre un café, puis là, ils jasent ça, puis là, les gens peuvent leur répondre avec le chat live, fait que là, ils peuvent poser une question, ils vont répondre, et puis là, les gens se sont rendus qu'il y a dans leur tête ça. Ça, c'est vraiment mon ami. Pourtant, c'est quelqu'un qui reste à 3000 km que tu ne verras jamais, mais parce qu'il a vu ta question, là, tu te sens spécial. Vous savez, c'est contre ça qu'on se bat aujourd'hui. Cette idée-là que l'amitié, c'est juste une connaissance ou me faire remarquer. Alors, peut-être que pour vous, ça ne fait pas de sens. Peut-être que vous vous dites, il va un peu loin, Marco. Mais c'est une des réalités dans laquelle on vit. Donc, on est en train d'essayer de se battre, et puis le message de ce matin va aller à l'encontre des géants de ce monde, de l'amusement, du divertissement, de la validation instantanée, Vous savez, on va regarder ce matin David et Jonathan. Comment leur amitié a été bâtie sur des principes qui sont profonds et qui vont peut-être piquer un petit peu. Parce que ça va aller probablement à l'encontre de certaines de nos valeurs qui, sans qu'on s'en rende compte, sont profondément ancrées en nous. OK? Et on va aller aussi, on va regarder un petit point là. Être un ami, c'est s'engager envers une autre personne. C'est se rendre vulnérable et confronter les choix et les actions de l'autre et mes choix et mes actions personnelles. C'est des valeurs qui ne sont pas à la mode parce qu'aujourd'hui, puis là, je vole une expression que j'ai entendue, aujourd'hui, les jeunes ils vivent en mode « no bad vibes » ou juste des ondes positives. Vous avez déjà entendu ça, hein? Va-t'en avec tes ondes négatives. Moi, je veux être de bonne humeur. Donc, pourquoi on en parle? Parce que, premièrement, Genèse chapitre 2, verset 18, on a le premier « il n'est pas bon » de toute la parole de Dieu. Quelqu'un sait c'est quoi le premier « il n'est pas bon » de toute la parole de Dieu? Yeah, amen! Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a créé une aide parfaite et Dieu a créé quelqu'un pour qu'il soit en, que l'homme soit en relation profonde et vraie. Avant de créer cette aide-là qui était Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a amené tous les animaux de la terre. Il a dit à Adam, nomme-les. Là, Adam s'est rendu compte que tous ces animaux-là étaient deux par deux, qui avaient des compagnons, qui étaient ensemble. Puis là, Adam s'est senti seul. Et Dieu lui a donné un ami. Donc, j'aimerais lancer ça comme première attaque à l'idée qui est peut-être dans votre cœur que Dieu est votre seul ami puis que si c'est tout ce que vous avez, vous êtes correct. On va attaquer ça un petit peu aujourd'hui parce que Dieu, oui, est suffisant en toute chose. Mais dans le principe biblique, Dieu nous demande d'entrer en relation avec d'autres croyants. Vous allez voir, c'est quand même important. Donc, un autre point intéressant, Dieu est un Dieu relationnel. On le voit dans la Trinité. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, ce désir d'être en relation avec les autres, c'est pas nécessairement un péché. Des fois, on dit aux gens, arrête de te chercher des amis, là. Ça, c'est parce que c'est ton désir pécheur. Faites pas ça. Dieu est un Dieu relationnel. Vous êtes créés à son image. Donc, est-ce que vous êtes des créatures indépendantes? Non, vous êtes des créatures relationnelles. OK? C'est donc avec assurance qu'on peut dire qu'avoir des amis, c'est un signe de maturité spirituelle. Si vous avez votre Bible comme seul ami, gloire à Dieu. Mais la Bible nous enseigne que le fer aiguise le fer, comme on dit dans Proverbes, et qu'un autre homme va exciter la colère d'un autre homme. Et souvent, quand on est seul avec notre Bible, on peut se faire plein de projets. Et puis là, quand on arrive en face de quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous autres, là, ça cogne, on a des versets qui amènent un autre contexte, qui amènent un autre point. Et puis là, on se dit, ah, j'avais pas vu ce côté-là. Ah ouais, c'est vrai, ce bout-là non plus. C'est quelque chose de profond et d'important d'avoir ça. Donc, si nous pensons que nous avons dépassé ce besoin-là d'avoir des amis, si je pense qu'avoir des amis, c'est pas important, puis que je suis rendu un chrétien assez mature pour pas avoir besoin de ça, probablement qu'on a déjà entré dans le mensonge de l'indépendance chrétienne et qu'on minimise le commandement de Dieu d'entrer en communion avec nos frères. Et plusieurs croyants souffrent par manque d'amis. La solitude, c'est quelque chose qui va tuer beaucoup de croyants. Souvent, dans nos déserts, Dieu utilise des amis pour nous relever. Et si je n'ai pas d'amis chrétiens, mais que j'ai un ami non chrétien, pensez-vous qu'il va me relever puis m'amener proche du Seigneur? Non. Puis je vais vous l'annoncer tout de suite, c'est le Seigneur qui va prendre le bord avant votre nouvel ami. Combien de jeunes adolescents partent parce qu'ils n'ont pas été capables de connecter avec des gens dans l'Église? Et puis là, en tant que pasteur jeunesse, en tant que leader jeunesse, tu fais « OK, on va passer du temps ensemble, toi, passe avec lui, faites ça. » Et puis là, finalement, ça ne clique pas. Là, on le voit partir. Ils connaissent l'Évangile, ils l'ont entendu, mais ils sont partis. Et un autre point intéressant, après ça, je vous promets, on va lire notre Bible, mais un fait intéressant, ça, au ciel, quand les pharisiens ont demandé à Jésus une colle, puis ils ont dit, une femme avec un mari, puis le mari est mort avant qu'elle ait des enfants, elle a marié le frère, là, puis là, toute la famille, ils passent, puis ils meurent toutes, parce que tu ne veux pas marier cette femme-là. Et là, il demande à Jésus, de quel homme sera-t-elle la femme au ciel? Qu'est-ce que Jésus répond? Là, vous ne savez peut-être pas, je l'ai dit vite, cette histoire-là, mais Jésus leur répond, il dit, vous n'avez rien compris. Au ciel, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari. Ils seront tous un peu comme les anges. Et qu'est-ce qui va rester quand il n'y aura plus de femmes ou de mari? Il va rester des amis. Donc, vos relations d'amitié sont très importantes. Et si vous, moi, je voudrais vous partager un point personnel. Dans ma vie, à un moment donné, il est arrivé quelque chose dans ma vie, un drame, c'est pas un drame, là. Je n'ai pas d'autre façon de le dire, mais je me suis ramassé un peu sans église. Sans église, sans amis. Et puis, j'avais des amis, mais ils étaient comme à 9h30 de route en Abitibi. Et puis, j'avais pas beaucoup de communion avec des chrétiens, avec des amis. On allait dans une église, mais vous savez comment c'est dur de connecter avec une église quand, un, c'est la COVID, deux, tu connais personne, trois, tu es un petit peu antisociable. Tous des points difficiles. Et j'ai souffert à un moment donné, mais je souffrais de ça, puis je ne m'en rendais pas compte. Et puis, un jour, on était une gang en visite dans la région de l'Abitibi, et puis on a une gang de gars, tous des amis que je connais depuis 10-15 ans, mais ça faisait 3-4 ans que je ne les avais pas vus. On s'est rassemblés ensemble, on s'est assis, puis ils ont commencé à prier, parce qu'il y en avait un des gars qui allait apporter un message. Et puis là, ça priait. Et puis le Seigneur, il travaillait en moi. Je disais, voyons, je me sens donc bien tout seul. Seigneur, pourquoi ça vient me chercher à ce point-là? Seigneur, pourquoi je pleure? Et puis, j'ai réalisé que j'étais rendu là, un peu dans mon idée de, hey, j'ai pas tant besoin d'amis, je suis correct, mais Dieu me ramenait. Il me disait, Marco, c'est bon, là, tu connais ta Bible, tu es capable de prêcher, tu es capable de... Mais là, je veux que tu te fasses des amis. Et puis, ça a fait mal, parce que ça a été long. Ça a pris encore 2-3 ans que j'aie des vrais amis. Des gens avec qui je peux parler de tout, de rien. C'est long. Puis c'est pas parce que je suis haïssable, là, gang. C'est parce que je veux vous montrer un peu ce que Dieu m'a révélé à travers la Bible. Le principe d'être un vrai ami. Puis j'ai réalisé que j'étais peut-être pas le meilleur matériel pour être un ami. Mais que Dieu peut nous transformer. Et le texte de ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner, pour ceux qui ont leur Bible, dans 1 Samuel 18. Et puis on va sauter plusieurs passes, mais j'aimerais qu'on regarde l'exemple parfait d'amitié dans la Bible, qui est Jonathan. Jonathan, qui est l'ami de David, le fils de Saül. Et je vous donne un petit contexte. On est au verset 18, au chapitre 18. Au chapitre 17, c'est David contre Goliath. Et là, on est au chapitre 18, on est juste après que David ait gagné. Et j'aimerais vous donner l'image, OK? Ici, là, on va lire le texte. Mais juste avant, je veux que vous compreniez ce texte-là, il vient de où? David, ça nous dit qu'il vient de battre Goliath. Un jeune de 16-17 ans, l'adrénaline dans le tapis. Ça nous dit qu'il tient encore la tête de Goliath. Puis il a son épée, là. Moi, je me dis, à 16-17 ans, je viens de tuer un géant, là. Je suis comme ça, là. Mes mains sont crispées bien raides. Je suis pogné, je ne peux pas lâcher mon épée. Je tiens la tête, puis là, Saül, il me dit, tu vas être le deuxième de tout mon royaume. Tu es trop hot. Et puis là, on voit ici, la scène se passe. David avait achevé de parler à Saül. Il vient de sortir, il tient encore la tête, puis tout ça, là. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan philéa comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête de tous les gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Et ici, je veux qu'on prenne le temps de s'arrêter, regarder Jonathan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez, Jonathan, là, il ne sort pas de nulle part. OK? Oh, excusez. J'ai demandé à ma femme de faire un PowerPoint. Je vais vous le montrer. Voici les points qu'on va regarder. Le premier point, là, c'est une amitié voulue et un amour profond. OK? Si on retourne quelques chapitres avant, Jonathan, c'est un homme de Dieu. Jonathan, pour vous mettre en contexte, au chapitre 14, il prend avec son serviteur, et il part et il dit, serviteur, il dit à celui qui tient ses épées, allons vers le camp des Philistins, et s'ils nous appellent de telle façon, ça veut dire Dieu nous les livre, on va tous les tuer. S'ils nous répondent de telle façon, on s'en revient, Dieu ne nous a pas donné la victoire. Jonathan est un homme de foi, un guerrier, pour l'instant sans égal. Il n'y en a pas d'autres qui sont décrits comme ça jusqu'à David. Il a la foi en Dieu et il avance, et lui, il veut avancer. Et même, il reprend son père. Quand son père, il dit, OK, personne mange, le gang. Personne mange jusqu'à ce qu'on ait gagné. Bon choix, bon choix. 24 heures de combat, à plus tard, Jonathan dit, hey, mangez, gang, ça n'a pas de bon sens. Là. Et puis finalement, Israël gagne. Jonathan est un homme de foi. Et qu'est-ce que ça fait un homme de foi? Ça veut un ami qui est un homme de foi. Hein? Ça veut quelqu'un qui pense pareil, qui voit pareil. Puis Jonathan, c'est ça qu'il voit, là. Mettez-vous dans sa tête, ces deux jeunes, là. Puis là, il y a David avec une tête et un épée, puis qui est là, puis... Il vient de battre David, que ça fait 40 jours que toi, t'es là, puis... Moi, je peux pas y aller, moi, me faire tuer, ça. Il vient de battre Goliath, hein? Ouais, merci. David qui bat David, là, ça s'est fait sur le bord de la rivière quand il choisissait ses roches. Mais David qui bat Goliath, c'est Dieu qui a délivré le peuple par David. Jonathan, c'est ça qu'il voit. Puis là, il se dit... Ce gars-là vient dans mon équipe. Comme quand on joue au ballon chasseur. Ce gars-là vient dans mon équipe, on va gagner. Mais il fait plus que ça. J'aimerais vous parler un peu de l'amour que Jonathan a pour David. C'est un amour profond. Ça nous dit qu'il l'a aimé comme son âme. C'est un amour qui cherche le bien de l'autre. C'est un amour profond qui valorise et cherche à aider l'autre, à être avec l'autre. Le mot est utilisé ailleurs dans la parole de Dieu. Ça décrit les sentiments que Jacob avait envers Rachel. Okay? Et c'est ces sentiments-là qui ont fait que travailler 7 ans pour lui, ça a passé comme une semaine. Tellement il était bien, tellement il était content, puis il était heureux. C'est aussi un mot qui est utilisé pour nous parler. Je suis dans la bonne place, moi? Oui, excusez. C'est aussi le mot qui est utilisé dans Deutéronome pour nous parler du point que Dieu dit, aime le Seigneur de tout ton cœur. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Le même principe. Et aussi, c'est un mot qui est utilisé plus loin. Quand un esclave aimait tellement son maître, il était tellement bien, c'était tellement agréable de travailler pour son maître, que ça dit, si un esclave aime, Philéa, aime son maître assez pour se donner à lui, voici ce que vous devez faire. Donc, c'est un synonyme, c'est un amour qui est profond, vrai. Et puis, ce n'est pas un amour qui est basé sur une émotion, là. C'est un amour qui est basé sur une décision, quelque chose de concret, ensemble, on va avancer. Ce n'est pas un amour sensuel, et non, Jonathan et David ne sont pas un couple homosexuel de l'Ancien Testament. C'est, on doit passer par-dessus ce que le monde essaie de nous véhiculer, que aimer quelqu'un vient évidemment en sensualité et en sexualité. La parole de Dieu nous enseigne que aimer quelqu'un va m'amener à faire des choix, à prendre soin de cette personne-là. Et vous allez voir, Jonathan et David sont comme ça. Pourtant, il y a des femmes, des enfants, puis ce n'est pas des hommes qui sont sexualisés l'un pour l'autre. Le véritable amour que Jonathan y fait, c'est simplement qu'ils ont fait une alliance devant Dieu. Regardez bien, au verset un petit peu plus loin, ça nous dit... L'amitié, C.S. Lewis nous le résume comme ça. L'amitié ne peut pas naître de la simple volonté d'avoir un ami. C'est pas simplement le résultat d'une décision. Et ici, réfléchissez, c'est quoi qu'ils ont en commun ces deux gars-là? C.S. Lewis le dit comme ça. Il dit, les personnes qui veulent simplement avoir des amis ne peuvent jamais en avoir. Pourquoi? Parce que la condition même pour avoir un ami, c'est de vouloir autre chose qu'un ami. Si, lorsque quelqu'un vous questionne sur... Et nous demande notre opinion, on nous questionne sur un sujet et que je réponds simplement par « m'en fous, je veux juste qu'on soit ensemble, qu'on soit des amis. » Aucune amitié ne peut naître, car sur quoi porterait l'amitié? Sur quoi porterait l'amitié? Ceux qui n'ont rien ne peuvent rien partager et ceux qui ne vont nulle part ne peuvent pas avoir de compagnon de voyage. Et donc, pour avoir un ami, il faut avoir quelque chose en commun. Et ce qui me fascine ici, c'est que David et Jonathan ont une chose en commun. C'est quoi? c'est la foi qui déplace des montagnes. C'est le désir profond de plaire à Dieu, de conquérir au nom de Dieu, d'être droit devant l'Éternel. Vous savez, Jonathan, il faisait souvent des, puis là, je vais le dire comme ça, des niaiseries que Saül faisait parce qu'il voulait être droit devant l'Éternel. Et ici, ces deux hommes-là ont un zèle commun pour Dieu. Regardez comment le speech que Jonathan vient d'entendre David prononcer. David a dit au chapitre 17, versets 45 et 40, à 47, David a dit à Goliath, il dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » La victoire appartient à l'Éternel. C'est ça qui doit être le focus de notre vie. C'est ça qui doit être l'épicentre de tout ce qu'on veut faire, la victoire de Dieu dans ma vie. La seule passion qui peut unir des amis profondément, c'est l'Éternel. Dieu est le seul qui doit être le centre de nos relations. Jonathan aima David comme son âme, car David aimait Dieu de toute son âme. Et si je décide de bâtir, comme dirait Paul, sur autre chose que ce trésor-là, et que je bâtis sur du bois, du chaume, le hockey, les jeux vidéo, les fleurs, je ne sais pas, ça ne t'offre pas. On va peut-être avoir des super belles amitiés, puis on va faire des grandes choses. Mais ce n'est pas une amitié qui va vous permettre d'avoir les points qui suivent. Et ça finit, on continue un peu dans ce texte-là. L'alliance. Jonathan fit alliance avec David. On voit ça au verset 3 et 4. Ils firent alliance. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Savez-vous ce que Jonathan est en train de faire? Il lui donne toute sa royauté. C'est humiliant, là. Il donne son manteau. C'est bon. Ça nous dit qu'il donne ses vêtements. Ça veut dire qu'il a tout donné, là, sauf ses bobettes. Hein? Puis je suis sûr qu'il a dit, tu veux-tu mes bobettes ou je peux m'en aller? Parce qu'il aurait donné. Il a donné son épée, son arc, sa ceinture. C'était qui le chef des armées de Saül dans ce temps-là? C'était lui. Mais lui, il dit, Dieu a délivré le peuple par toi. Je veux que tu sois mon roi. Parce que moi, je ne me suis pas levé pour aller me battre contre Goliath. Mais toi, tu y es allé. Vas-y. Il donne tout. Il fait une alliance. Puis ici, là, nous, on lit ça et on dit, ah, faire des alliances, c'est quoi? C'est vraiment normal dans le temps ici. Les hommes, entre eux, faisaient des alliances tout le temps. Et c'était tout le temps une alliance basée sur quelque chose, sur un but précis, sur vraiment quelque chose qu'on allait travailler les deux ensemble pour y arriver. C'est ça, une alliance. Deux personnes qui s'unissent dans un but commun. OK? Et ici, on pourrait dire simplement, ils ont fait vœu d'amitié, mais ce n'est pas assez fort. C'est une alliance, ils l'ont scellée. Et Jonathan a tout donné à David. Et qu'est-ce que David a donné à Jonathan? Son amitié. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait une épée puis une tête. Veux-tu la tête? Il n'y avait rien d'autre à donner que lui-même. Et c'est profond. Et on voit ici que Jonathan a la foi en Dieu. Ça lui a tout coûté, là. Il a tout perdu pour gagner un ami. Puis ça valait la peine parce que son ami était un homme de Dieu. C'était pas n'importe qui, c'était pas n'importe quoi. Et un premier point qu'on peut essayer de faire relever ici, est-ce que dans ma vie, je suis un peu comme David? Est-ce que quand les gens me voient, ils disent « Ah oui, ça, j'aimerais ça être son ami. Ah oui, ça va me motiver à suivre le Seigneur. Ah oui, ça va être bon pour moi. » Pas toujours. Le deuxième point, oups, pas grave. J'aurais dû avancer un petit bout. Le deuxième point qu'on va regarder ensemble, juste pour vous donner une idée, c'est des conseils dans l'épreuve et une amitié solide. Si vous tournez deux chapitres plus loin au chapitre 20, puis on ne lira pas tout, mais ici, là, c'est quand David, Saül devient fâché, puis il chasse David. Vous savez, Saül, à un moment donné, a commencé à avoir des crises de panique, de jalousie. Il était tenté même par un esprit méchant. Et il finit par juste chasser David. Et là, David, chapitre 20, et je vais vous lire certaines petites choses au verset 1. David s'enfuit de Najob près de Rama. Il alla trouver Jonathan et il dit, « Va chercher Jonathan, son ami, qui est le fils de Saül qui veut le tuer. » Ça veut dire qu'il a confiance en Jonathan, même si Jonathan devrait techniquement être son ennemi. Et on va regarder comment un bon ami donne des conseils et renforce, encourage son ami. Ça dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » Là, Jonathan, il rassure, il dit, « Non, non, s'il veut te tuer, je vais le savoir, on prend tout ensemble. » Regardez au verset 4. « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Qu'est-ce que tu as besoin, mon ami? Verset 8. David, il va, il regarde Jonathan, puis il dit, « Montre-moi ton affection, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. S'il y a quelque crime en moi, ôte-moi toi-même la vie, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? » David est prêt à dire, « Regarde, tu es mon ami, là, je te fais confiance. » Si vraiment j'ai péché, là, occupe-toi de moi. Je me mets devant toi parce que tu es mon ami, et si je suis tout croche, tu vas me le dire. C'est important d'avoir des gens comme ça dans notre vie, qui peuvent nous le dire, nous ramener. Et Jonathan lui dit, « Je prends témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, dans le cas où je serais bien disposé pour David, si je n'envoie personne vers toi. » Pour t'en informer que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Verset 14, si je dois vivre encore, regardez ici, là. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Si je meurs, ne me retire jamais ta bonté, ne la retire jamais envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David, dont Saül. De dessus de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David, dont son père Saül. Et ça termine, ils font un plan ensemble. Je ne lirai pas l'histoire, mais ils font un plan. Si je vais vérifier auprès de mon père, s'il veut te tuer, on va faire telle chose. Si tu es correct, je vais faire telle chose. Finalement, Jonathan, il va, regardez au verset 14 à 16. Il est conscient que si Saül se fâche, ça se peut qu'il me tue. Et si vous prenez le temps de lire le texte, Saül, on est vraiment chanceux que Saül soit vraiment pas bon avec une lance. Parce qu'il a manqué David au début, puis là, il vient de manquer Jonathan. Dieu dirige les lances. Mais Saül a essayé de tuer Jonathan, il était fâché noir comme David. Ça bouillait en dedans, il voulait le tuer. Et après ça, ils font leur point ensemble. Et puis là, Jonathan, il va vers David, puis il lui dit, « Vas en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit jamais entre toi et moi, entre ma postérité et ta postérité. » Vous savez, Jonathan est en train de dire à David, « Dieu t'a choisi. Mon père, c'est pas grave. Dieu t'a choisi. Donc, je vais faire tout ce qui est en mon possible. Je vais mettre ma vie sur la ligne pour qu'on ait une réponse claire. Une fois qu'il a la réponse, là, qu'est-ce qu'il fait? Ça dit qu'il va le voir. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Puis quand tu vois ton ami qui passe une épreuve, et puis là tu vas le voir, puis là il est tout bouleversé, puis là il part à pleurer. Ça dit David fondit en larmes. Là c'est qui prend le lead? C'est le bon ami qui dit, ne t'en fais pas, vas en paix. Vas en paix, je sais que c'est dur. Je sais que c'est émotif. Je sais que c'est du gros caca. Je sais que c'est plate. Je sais que tu as tout perdu. Mais sache que tu peux aller en paix. Nous avons fait alliance au nom de l'Éternel. Que l'Éternel soit jamais entre toi et moi, ta postérité, ma postérité. On a fait alliance. Donc, peu importe ce qui m'arrive, ben, je veux que toi, tu réussisses. Celui qui voit son ami sur le chemin de la mort et qui ne fait rien pour l'aider n'aime pas son prochain, mais il s'aime lui-même. 1 Jean 3,18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Jacques 1,22 nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jonathan cherche son ami, rassure son ami, rappelle l'alliance. David questionne son ami. Les deux pleurent ensemble et Jonathan les ramène à regarder à l'Éternel. Est-ce qu'on a des amis comme ça? Est-ce qu'on a des amis comme ça aujourd'hui en 2024? Est-ce que ça existe un ami comme ça? Est-ce qu'on en a? Regardez dans votre vie, si vous n'avez pas ça, quand l'ennemi va vous attaquer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger une taloche. Une deuxième. Une troisième. Puis si vous êtes seul, après deux, trois taloches, souvent, là, on arrête. On devient un peu plus, comment le dire, soft. Parce que j'ai juste un anglicisme qui me vient. Ça nous prend des amis comme Jonathan et David. Puis j'aimerais vous amener un peu rapido presto. Chapitre 23, versets 16 à 18. C'est un autre point intéressant. C'est le dernier texte qu'on va regarder ensemble. Alors, on a David qui est encore en train de se sauver de Saül. Saül le poursuit. Finalement, Dieu fait qu'une armée décide de les attaquer. Saül réalise qu'il ne peut pas courir après David. Va protéger le peuple. Court après David, va protéger le peuple. Tout le temps, back and forth, comme ça. Et puis là, un jour, on a cette discussion-là. David est caché dans une forêt. Et puis, Jonathan vient le voir. Puis, ça dit simplement, « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, au verset 16, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Il lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu règneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. » Saül, mon père, le sait très bien. Et ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. On a une attention spéciale. Avez-vous dans votre vie un ami qui va vous pourchasser pour vous fortifier dans le Seigneur? Hein, c'est pas juste la job des pasteurs de voir comment vous filez pas. Parce que je vous le dis, on le voit pas. On peut pas le savoir parce que vous êtes tous beaux. Vous êtes tous propres. Puis vous venez à l'église avec un beau sourire. Puis quand ça va pas bien, même moi, « Ah, ça va. » Hein, on dit tous des mensonges qui viennent du plus profond de l'enfer dans nos vies. Là. Hein, quand ça va pas, quand je me suis chicané, quand mes enfants vont tout croche, j'ai pas le goût de vous en parler. Là. Ça se peut que non. Puis là, je vais peut-être faire un mensonge. Mais est-ce que j'ai des amis qui vont me pourchasser pour me persécuter avec la gloire de Dieu? Si vous n'avez pas ça ici, commencez à prier pour que Dieu vous en envoie un. Et si vous n'êtes pas ce genre de personne-là, c'est correct. Moi non plus. Mais on peut prier pour que Dieu transforme notre cœur, hein, qu'on devienne un ami. J'aimerais vous dire que pour Jonathan, d'aller trouver David dans la forêt, ça devait être humiliant. OK? Quand tu es le fils du gars qui veut tuer David et que tu t'en vas vers David, vers le camp de David qui est composé d'hommes qui ont été rejetés des autres nations et qui sont pourchassés, tu t'en vas pas là, le torse bombé avec ton armure puis tout ton prestige. Non, non. Tu trouves David, tu t'annonces, c'est Jonathan, David me connaît, probablement qu'ils font comme, oh, c'est Jonathan, il veut tuer David. Puis là, il court après, il pogne la main. C'est pas facile, là. C'est difficile, c'est humiliant. Hein? Ça prend beaucoup de courage. Quand ils vont me voir, ils vont-tu juste me tuer parce que là... Mais ils connaissent Jonathan, ils connaissent son prestige, ils connaissent son amour pour Dieu. Un ami, c'est une personne qui va fournir un effort de plus pour me trouver quand je suis mal en point. C'est celui qui va me chercher quand je veux voir personne. C'est la voix que je vais écouter quand le désespoir semble plus grand que moi. C'est celui ou celle qui va mettre un sourire dans mon visage abattu quand je vais voir son numéro de téléphone. C'est lui qui va pleurer avec moi quand je vais avoir besoin de pleurer. C'est lui qui va me rappeler les bénédictions de Dieu quand je fais le pas bien. C'est lui qui ne va pas craindre de faire alliance avec moi devant Dieu. Alors que moi, je suis dans le plus bas. Hein, David, c'est pas un roi encore, là. Même si c'est l'élu de Dieu. Il n'est pas encore roi. Hein, il y a 600 gars avec lui, puis il se sauve de caverne en caverne. Puis à toutes les fois, Dieu le délivre. Mais c'est pas encore glorieux, là. On s'entend, c'est le héros d'Israël, mais c'est pas glorieux. Le but de la visite de Jonathan, c'est de fortifier la confiance en Dieu de David. Un exercice d'humilité, de foi, C'est lui le king, là. C'est lui le prochain roi sur la liste si David meurt. Réalisez-vous ça? Si Saül meurt, vous êtes réveillés. Hein? Si Saül meurt, c'est Jonathan le prochain roi. Si Saül meurt, c'est Jonathan le prochain roi. Vous comprenez? Si David est mort, c'est Jonathan. Là, je vous ai tout mélangé. Hein? En ce moment-là, David, il est caché. Si Saül meurt, c'est Jonathan qui devient roi. Si Jonathan tue David, plus de problème, c'est lui le roi. Jonathan, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui l'élu de Dieu. Ce n'est pas parce que mon père a été choisi que moi je le suis. Et quand je trouve la personne que Dieu a choisie, gloire à Dieu, je vais lui donner toute la place. Ça, c'est difficile des fois dans nos vies d'accepter qu'on n'est peut-être pas la bonne personne pour faire quelque chose, mais que mon body à côté, c'est lui que Dieu a choisi. Jonathan abdique avec joie son trône afin d'obéir sans crainte à son Dieu. David est en fuite. Il y a juste une poignée de soldats avec lui. La majorité des gens ont peur de lui, ne veulent pas le voir. Mais Jonathan revient et ça dit encore une fois, là, ils firent tous deux alliance devant l'Éternel encore. Quand ton ami est au plus bas, est-ce que tu vas accepter d'aller le voir puis de continuer de le fortifier, pas juste quand il est au top, pas juste quand ça va bien puis qu'il y a un nouveau char puis qu'il veut te le montrer. Non, non, quand il a tout perdu, quand son char ne marche pas, quand ses enfants ne suivent pas le Seigneur et qu'il trouve ça dur, quand là, il est découragé parce que là, il s'est encore pogné, la job, ça ne va pas bien. Est-ce qu'on va être prêt à aller le voir, même si ça peut être lourd, même si ça peut être difficile? Est-ce qu'on est un vrai ami ou est-ce qu'on est comme vraiment mal à l'aise et que ça ne nous tente pas? Et j'ai encore oublié d'avancer mon PowerPoint, mais c'est pas grave. Vous avez vu comment c'est compliqué et différent? OK, pratico-pratique, ça veut dire quoi? On tombe dans le pratique. C'est vraiment ça que j'avais à cœur de vous apporter. Parce que pour nous, ça veut dire quoi? Je vous exprime un peu un cri de mon âme personnelle. Quelque chose que j'ai réalisé que profondément, si on est capable en tant qu'Église de développer cette mentalité-là, cet amour-là dans la communion fraternelle, ensemble, basé sur les Écritures, basé sur un amour vrai, basé sur un zèle d'amener tout frère et sœur qui lutte au pied de la croix. Pas nécessairement par mon intelligence, parce que vous êtes dans le trouble avec moi, là. Pas le pogo le plus léger de la boîte, moi, là. Mais je peux vous amener au pied de la croix, par exemple. Puis c'est tout ce que j'ai à offrir. C'est tout ce que Dieu veut. Et vous savez, ça m'a fait penser, quand on est allé avec Tommy, puis Loïc, puis Océane, on est allé à une conférence, il parlait des amitiés. Et un des prédicateurs a dit une chose qui m'a profondément touché. Et il dit, combien d'entre nous ici, on a des amis avec qui on a grandi dans l'Église? Et qui, à un moment donné, ont eu une lutte, et puis ils se sont fait mettre sous discipline, puis ils sont partis. Combien de ces amis-là ne sont pas rendus athées? Ils croient encore en Dieu, mais ils luttent profondément avec un péché qui a une emprise sur eux. Et puis là, on faisait du mieux qu'on pouvait hein, dans les années 80, 90, 2000. On faisait du mieux qu'on pouvait pour essayer de les ramener. Mais combien de ces personnes-là sont dans le monde, pas d'église, pas d'amis chrétiens, parce qu'ils ont lutté avec un péché et qu'au lieu de les amener au pied de la croix, bien, on les a tassés. Et ça m'a profondément bouleversé parce que j'ai même pas assez de doigts pour les compter. Mais je suis pas vieux, là. Je suis sûr que vous en connaissez plus que moi. Ça m'a profondément bouleversé, au point que j'en perds mon micro. Mais ça m'a profondément bouleversé parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut développer l'amour fraternel au point que on va être capable de discipliner en aimant? On va être capable d'amener les gens au pied de la croix tout en glorifiant le Seigneur et en protégeant la sainteté de la parole de Dieu. C'est donc sur ça ce matin que je veux qu'on parle pratico-pratique. Vous le voyez au plein de spoilers ici. La bonne fondation. On va parler aussi L'engagement réel à l'amitié, même quand ça pique. Transparence et profondeur, très difficile. Et finalement, on va tout se baser sur la parole de Dieu. L'Évangile et une vie transformée sont les deux, sont les seules bases possibles et solides pour une vraie amitié. Croyez-vous? Me croyez-vous? Et pourtant, c'est jamais là-dessus qu'on commence nos amitiés. Hein? Ah, toi, t'aimes le hockey, moi aussi, ok, parfait. T'es-tu chrétien? Ah oui, ah, cool! Mais l'Évangile et une vie transformée par l'Évangile sont les seules bases solides pour une vraie amitié. Il est impossible d'entretenir la foi de quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. C'est impossible. Il est impossible. Je l'ai dit ça. Hein? Le livre d'Éphésiens nous démontre, si vous prenez le temps de lire les trois chapitres d'Éphésiens, là, nous démontre comment Dieu est l'auteur d'une régénérescence complète de la mort. Vous étiez mort par vos offenses et péchés, mais maintenant, vous êtes en vie. Sans cette régénérescence, nous sommes des enfants de colère. Si je bâtis sur un fondement de mort ou sur des actions charnelles, je suis un instrument du diable, de l'accusateur et de la tromperie. Si je ne suis pas régénéré, je n'ai pas la capacité d'être un bon ami chrétien. Ça commence bien. Mais vous vous en doutiez, je suis sûr. Hein, personne ne dit, moi, je vais être un bon ami chrétien, mais je ne veux rien savoir de Jésus. Ça ne part pas bien. Donc, vraiment, d'avoir donné sa vie à Dieu, c'est la base. J'aimerais vous amener ce petit point ici. Si vous tournez dans Psaume 25 au chapitre 14, vous prenez votre crayon puis vous le surlignez au bout. Là. Moi, c'est ça que j'ai fait. Parce qu'on est en train de parler d'amitié. Psaume 25, 14 nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » L'amitié de l'Éternel. Voulez-vous être l'ami de Dieu? Moi, oui. OK? Et je vous encourage à être ami de Dieu. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour être ami de Dieu? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça doit vous rappeler un verset. Proverbe 3. Proverbe 1, 27. Je dis tout le temps 3, mais c'est 1. Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. C'est donc avec la crainte de l'Éternel que nous serons capables de pouvoir avoir l'amitié de l'Éternel. Nous avons été déclarés saints et justes par Dieu, pour Dieu, par la croix, par Jésus. Sans ce fondement-là, sans cette crainte-là de Dieu, sans cette réalisation-là que j'ai aucune capacité à enlever mes péchés, je ne peux pas être un bon ami chrétien et je ne peux pas avoir l'amitié de l'Éternel. C'est profond, là. Être ami de l'Éternel. Qui, dans la parole de Dieu, a été appelé l'ami de l'Éternel? Hein, c'est une colle. Abraham. Il a été appelé l'ami de Dieu. Est-ce qu'Abraham était un gars parfait? Non. Un pissou. Mais qui avait Dieu comme ami. Bon, vous irez lire son histoire, c'est vrai. Et pourtant, c'était l'ami de Dieu. Pourquoi? Craignait Dieu. Il avait foi en Dieu et s'attendait à Dieu. Il a attendu combien de temps pour avoir la promesse de Dieu? Longtemps. Je ne vais pas compter, mais longtemps. Il a eu son enfant à 100 ans. Je donne une idée, là. C'est long. Nous sommes tous appelés à faire de Dieu notre intérêt commun. Nous serons alors amis avec le Dieu des cieux. Si Dieu est mon intérêt commun avec vous, on peut bâtir une amitié. On sera peut-être pas full friendly, là. Mais au moins, quand on va se voir, on va avoir un intérêt commun. Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a appelé le l'attire. » Donc, la base de l'amitié, c'est la parole, c'est l'Évangile qui transforme nos vies. Si ce n'est pas le cas, ça va être dur de bâtir sur le reste, mais c'est ça qui est une des bases. Le deuxième point, c'est l'engagement réel à l'amitié. Proverbe 17, 17. Qui est un peu notre verset thème, l'ami aime juste une fois de temps en temps. Et dans le malheur, il disparaît. Hein? Ça, c'est le proverbe l'amitié 2024. Hein? L'ami aime quand c'est le fun, et dans le malheur, il disparaît. Puis là, ben, qu'est-ce que tu fais? T'appelles papa, t'appelles maman, parce que tu es dans le trou. Hein? On a fêté la fête des mères, ça ressemble à ça. Mais non, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 18, 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Luc 14, 27, 28, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Ici, on parle de Jésus, qui est en train de parler aux disciples. Il dit, « Si vous voulez me suivre, c'est ça que ça coûte. » Avant de dire que vous voulez suivre le Seigneur, assurez-vous que vous savez ce que ça coûte puis que vous êtes prêt à payer le prix. Celui qui veut me suivre, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça coûte votre vie. Parce que porter sa croix dans le temps, ça veut dire que tu t'en vas te faire crucifier. Ça veut dire que tu t'en vas mourir. Ça veut dire que tu n'as plus, tu n'as même plus de valeur. C'est correct que tu sois battu, humilié, tout nu, accroché une croix pour démontrer la gloire de Rome et comment tu étais un ennemi. C'est ça que ça veut dire, porter sa croix. Puis Dieu, Jésus, il dit simplement, il dit, assurez-vous que vous êtes prêt à payer le prix. Puis le prix, c'était Jésus, mort à la croix, qui demande votre vie complète. Et j'aimerais prendre ce passage-là et l'appliquer. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Est-ce que j'ai compté si j'ai assez d'énergie pour être un bon ami, pour devenir du matériel d'amitié efficace? Hein? Est-ce que j'ai compté ou je donne mon amitié à tort et à travers, et puis là, j'ai tellement d'amis que je suis tout le temps brûlé, puis je ne suis pas capable de les aider. Et puis là, finalement, à chaque fois que je vais voir un de mes amis qui souffre, c'est lui qui m'encourage, parce que là, je ne veux plus rien, je fais mon possible. Puis ça arrive. Mais si on a des amis chrétiens, c'est ça qui va arriver. Hein? On a tout donné, on est vidé, mais là, il faut que j'aie mon ami. La joie du Seigneur va nous unir. On va parler du Seigneur, les deux, on va être encouragés. Puis là, on va être content d'avoir fait le pas, on va être content d'avoir avancé. On va être content de ne pas avoir été tout seul à souffrir. On va être content qu'il soit venu pleurer avec nous. On va être content qu'il soit venu juste nous encourager, nous porter un lunch. Sucre à la crème, hein? Comme je disais tantôt, la plupart de nos relations sont fondées sur des bases très égocentriques. Je suis bien, j'aime ça. L'autre aussi, on va être ensemble. Ou quand je suis avec cette personne-là, je me sens élevé, je me sens bien. L'amitié, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une relation de travail. L'amitié biblique inclut l'engagement à soutenir les autres, peu importe la situation. Quand ça va bien, quand ça va mal. Cela implique de valider si j'entends quelque chose sur mon ami. Valider, confronter et reprendre. L'engagement à l'amitié, ça vient chambouler certaines de nos valeurs, je l'ai déjà dit, mais je le répète, qui valorisent l'individualiste. Et on est rapide à passer à autre chose. Cet ami-là ne me sert plus. Next. Maintenant, tu es mon ami. Tu ne me sers plus. Next. Maintenant, tu es mon ami. Et je vais voguer ma vie comme ça. Mais si on regarde, Proverbe 27, 5, ça se peut que ça pique. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Quand mon ami qui m'aime et qui voit que je m'en vais sur une tangente dangereuse, m'avertit, c'est mieux qu'un de mes amis qui se fout complètement de moi, puis qui va me dire, « Viens avec moi, on va aller perdre notre temps. » Proverbe 27, 6, le verset qui suit, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Et quelques versets plus loin, « Les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami. » ni l'ami de ton père. N'abandonne pas ton ami. Conseille-le. Ça vous fait-tu penser à un petit texte dans le Nouveau Testament? Celui qui sauve son ami d'un péché, je vais vous le lire, là, je l'ai écrit. C'est Jacques 5, on arrive bientôt. On va être dans l'autre point, la transparence et la profondeur, puis c'est vraiment un peu là-dessus que je vais terminer avant de conclure comme il faut. La transparence et la profondeur. C'est extrêmement effrayant d'être authentique aujourd'hui. C'est extrêmement authentique de venir en avant d'un peuple, chrétien ou pas chrétien, et de dire, je me suis trompé. Je vous demande pardon. C'est extrêmement humiliant d'aller en avant et de dire, je lutte avec ce péché-là. C'est extrêmement difficile d'être authentique. Et savez-vous ce qui est encore plus difficile? Recevoir que mon frère ou ma sœur lutte et ne pas changer mon attitude envers lui. Hein? Si mon frère vient et il me dit, ah, moi, je lutte tellement avec la bouteille, là. Je boirai une 24 à tous les soirs, je fais le pot. Là, ah ben, OK, on va prier pour toi, puis on peut amener des passages, qu'est-ce qui se passe, prendre des nouvelles. Et puis là, on se vire de bord, puis là, t'as dit ça, il boit une 24. C'est un malade. Il va se tuer, son cœur, tout. On fait ça des fois? Là, c'est une facile. Là, t'as ton ami qui vient te voir, puis qui dit, hey, je lutte vraiment, vraiment avec la pornographie, j'arrête pas. Toi? OK. Mais là, quand tu le vois, tu fais juste comme, ben, lui, il lutte, hein? Ça vient tout disqualifier son ministère. Il lutte. Voyons, il lutte. Entendez-vous dans le micro? Hein, c'est dur. Et savez-vous ce qui peut arriver si vous êtes transparent? Ça se peut que vous perdiez des amis. Ça se peut que vous perdiez des ministères. Hein? Être authentique, être vrai, ça fait peur. Parce qu'on est tellement vite à passer à l'autre. On est tellement vite à accepter de dire, ah ben les pasteurs, les leaders, les diacres, eux autres, il faut qu'ils soient parfaits, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça. C'est facile après ça, si quelqu'un lutte, de faire comme, ah, pas lui. Ah non, pas lui. Puis là, on change notre vision de la personne. Jacques 5, versets 16 et 19-20. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. J'aimerais vous dire que c'est un objectif impossible et même utopique d'être capable de recevoir ou d'aller chercher un frère. Mais savez-vous ce qui est le fun? Dieu est le Dieu de l'impossible. J'aimerais vous amener un peu ce principe. Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens dans la deuxième épître, chapitre 2, verset 4, il lui dit, « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé avec beaucoup de larmes que je vous écris. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Le français est difficile à lire ici. Là. « Afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Est-ce que je suis prêt à aimer assez mon prochain pour l'avertir? Puis quand il me dit non puis qu'il me crache dans la face, je prie pour lui. Je trouve un ami. On va le voir encore. On prie pour lui. Et les gens qui sont ouvertement puis qu'ils ne veulent pas puis que ça se rend public, est-ce qu'on est prêt ensemble en église à les amener au pied de la croix? Hein? On évite, on aime ça faire le un à un, bon, on va reprendre un peu, parce qu'on se sent obligé, puis c'est correct. Après ça, on amène une deuxième personne, puis là, on fait notre possible, puis là, c'est plate de se faire dire qu'on n'est pas d'amour, puis qu'on les aime pas, quand pourtant, en dedans, on a juste le goût de pleurer, puis de leur dire, ah, repends-toi, mon frère, reviens au Seigneur, comprends que ça va être difficile. Et c'est un peu le cri du cœur qu'on a ce matin, de pouvoir s'approcher les uns les autres, les amener au pied de la croix et demander pardon. Le dernier petit point que j'aimerais vous partager, c'est la parole de Dieu qui devrait être le fondement. Ça dit dans 1 Corinthiens 3:11, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Proverbes 2, 4 et 5, « Si tu la cherches comme l'argent, la sagesse de Dieu, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. » Tu trouveras la connaissance de Dieu. Psaume 119, vous pouvez le lire au complet, mais ça dit, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Dans nos relations d'amitié, pour arriver à nous fortifier dans l'Évangile, on doit être capable d'aller voir quelqu'un qui pense peut-être pas comme moi, qui amène des versets à un contrepoint, et puis là, on va pouvoir vivre Proverbes 27, 17, comme le fer aiguise le fer, Ainsi, un homme excite la colère d'un autre. Psaume 119, 71. Il est bon d'être humilié, jeune, afin que j'apprenne tes statuts. Il est bon d'être humilié. Si je me trompe, c'est bon que je sois repris. J'aimerais vous inviter, les musiciens à s'avancer. Pendant qu'on arrive, j'aimerais vous dire que une des choses qui est le plus profondément ancrée dans mon cœur, c'est ce désir qu'ensemble, on puisse arriver à développer cette vision-là d'Église, de prendre soin de mes frères et sœurs, pas dans la grande Église, mais dans les petits groupes, qu'on puisse se trouver des amis, qu'on puisse devenir du matériel d'amis qui va faire que, bien, au lieu de s'éloigner, quand les gens sont dans le péché, ils vont vouloir s'approcher, ils vont avoir besoin de prière. Qu'on puisse se couvrir tous de prières, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse se fortifier, qu'on puisse pleurer ensemble, qu'on puisse vraiment être l'Église. Parce que sachez que si vous n'êtes pas un ami ici qui va faire ça, il y a quelqu'un dans le monde qui va le faire, avec une mentalité qui va nous séparer de Dieu. Hein? Pour joindre à ma voix, je vais vous lire le verset de Paul, 1 Corinthiens 15, 13, qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ça va être pas mal plus facile de faire pourrir l'Église que de la fortifier. Et c'est un peu le cri de mon âme ce matin, qu'ensemble on puisse être des bons amis. Comment être un bon ami? La fondation de la parole de Dieu, de l'Évangile dans ma vie, la volonté réelle d'être un ami. Et finalement, d'être authentique, un vrai chrétien du dimanche au dimanche, 24/7, et qu'à travers mes luttes, je puisse avoir des amis qui vont prier pour moi. Et si je ne suis pas ce genre de personne qui peut être un ami, eh bien, je peux prier au Seigneur qui me transforme. Sachez que vous êtes des nouvelles créations. Toutes choses passées sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Vous avez la capacité par l'Esprit Saint de Dieu de devenir cet ami-là. Prions. Ah, Seigneur Jésus, prends soin de nos âmes. Fais qu'on puisse être des bons amis. Fait que tous ceux ici qui souffrent de solitude puissent trouver des amis chrétiens, puissent trouver des gens qui vont les encourager. Fait que chacun d'entre nous ici ce matin qui avons des amis, qu'on puisse être là pour eux, qu'on puisse les fortifier, qu'on puisse les encourager. Fait, Seigneur, que chacun d'entre nous, lorsqu'on souffre, on ait quelqu'un qu'on peut appeler, qu'on peut pleurer avec lui, qu'on peut l'encourager. Et Seigneur, ce matin, je veux t'amener toutes les personnes que tu m'as amenées à l'esprit quand je faisais ce message, qui ont quitté un peu l'Église, probablement un peu tout croche, qui ont été mal aimées, qui se sont senties rejetées ou jugées. Seigneur, je te prie simplement de les rappeler. Je te prie que ton Esprit Saint puisse les convaincre de l'amour que l'Église peut avoir pour eux, de l'amour que tu as pour eux, et qu'on puisse vivre des restaurations merveilleuses. Que le péché ne soit pas victorieux sur les chrétiens qui souffrent, mais que tu puisses profondément nous fortifier en tant qu'Église et nous unir en tant qu'amis. Seigneur Dieu, aide-nous à développer cette mentalité-là ensemble et bénis ton Saint-Nom pour la gloire de Jésus qu'on te prie.